11h sur Radio Clavier, nouvelle chronique, nouvelle venue sur nos ondes. Sarah Catan, la directrice de Tribune Juive, que je salue chaleureusement. Sarah, bonjour.
Bonjour.
Merci Sarah d'avoir accepté de présenter un édito sur Radio Clavier. Je vous laisse la parole.
Alors, merci à vous. 702 jours depuis le 7 octobre. Peu importe le nombre de jours, me direz-vous, on est toujours le 7 octobre. Peu importe le nombre de jours, s'il n'était notre 900e soldat mort, nos otages encore chez les barbares, notre pays endeuillé, le déchaînement anti-juif à l'échelle planétaire, la désinformation permanente sur le sujet Israël, le silence du monde regardant le pays face à ses défis, faire le job, seul, Israel alone, titrait The Economist en mars 2024. Le silence du monde regardant Israël, non pire, n'hésitant pas à l'accuser de tous les maux, de tous les vices. En cette période tragique, alors qu'Israël se bat pour sa survie, mais également pour celle de la civilisation occidentale et du monde libre, les Juifs de France et d'ailleurs débattent eux aussi avec passion. En France notamment, dans nos familles à tous, et par extension dans notre communauté, des polémiques éclatent. Et c'est de l'une d'entre elles, importante, qu'en ma qualité de directrice de Tribune Juive, je veux vous parler aujourd'hui par souci de transparence, par intégrité, pour remettre l'église au centre du village, selon une expression bien française, ou la choule au centre du kibbutz. L'affaire est la suivante. Notre journal a publié récemment des articles interrogeant, voire critiquant, après les positions de l'ONU ou de l'UE, celles des institutionnels juifs, souvent exprimée dans ces tribunes que l'on vient désormais signer au sein d'un petit entre-soi du type 50 intellectuels ici ou 50 personnalités juives de France là. La première tribune qui nous a amenés à répondre fut celle réunissant Delphine Horviller, Anne Sinclair et d'autres, venue le 8 mai dénoncer, je cite, « la faillite morale d'Israël », suivie qu'elle fut d'immédiat ralliement aux propos pourtant résolument anti-israélien du président Macron. Oui, je sais, avant-hier, il s'est pendu d'un tweet en hébreu pour soudainement, et sans doute conseillé par un autre, Yassine Bellatar, exprimer comme des condoléances, trop tard, et surtout d'une extrême incohérence au vu de son choix de ne pas participer à la marche contre l'antisémitisme, au vu de l'utilisation du qualificatif abject et du mot barbarie, dont chacun se souviendra, au vu de la réponse qu'il fit à Netanyahou, et au vu de la reconnaissance devenue obsessionnelle d'un État palestinien dont il sera discuté le 22 septembre. Du grand rabbin de France, Raïm Korsia, à Madame Horviller, ils sont aussitôt tous accourus, fidèles, amis, soutiens aveugles de la parole présidentielle, défendant corps et âme l'indéfendable, se postant en courtisan docile d'un président dont il est permis de critiquer les propos sans pour autant contester la légitimité, ralliant eux, de facto, les thèses les plus malhonnêtes concernant l'État hébreu, rejoignant in fine ses ennemis. Alors, faut-il rappeler notre attachement à la liberté de parole et au débat d'idées? Ceux qui nous lisent savent que Tribune Juive n'a pas sur ce sujet à se justifier. Ainsi donc, à l'origine de ce qui devint une guerre, qui aurait été dérisoire, n'était la violence inédite qui la caractérisa sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux. Des articles furent publiés sur Tribune Juive, celui de Charles Rochesman appelant Delphine Horviller à débattre, un autre signé Pierre Lursa, titré lui « Les Juifs de Macron ». Nos auteurs furent invités sur les plateaux. Les Juifs de Macron donc, que n'avait pas là écrit Pierre Lursa? Des réactions d'une rare violence suivirent, s'en prenant à notre titre. Les Juifs de Macron. Voilà une nouvelle fois Tribune Juive et sa directrice jetés aux chiens, qualifiés des pires mots. Ce journal, jadis de gauche, donc digne, était devenu une fanzine à Sénat, celle-là. Un torchon d'extrême droite, s'écrièrent-ils tous. Pour rappel, nous étions nous aussi de gauche quand ces mots signifiaient autre chose que ce qu'ils désignent aujourd'hui. Pour rappel encore, Jacob Grunewald publie régulièrement dans nos colonnes. Accoururent donc, comme ils le firent pour se poster aux côtés du président du « en même temps », nos Juifs de gauche. Ceux que j'avais, pour ma part, nommés les Juifs de cour, lors du procès intenté à Georges Bensoussan. Ils étaient là, tous les mêmes exactement, pas un ne manquant. Très colère, n'hésitant pas pour une d'entre eux, particulièrement concernée par la critique, et ne supportant pas qu'un désaccord suite à son propos exprimé, a téléphoné en personne à chacun de mes auteurs pour les sommer de cesser d'écrire ce titre indigne, indigne, disqualifié d'office, puisque une fois encore désigné comme d'extrême droite. Tribune Juive, sa directrice, se retrouvèrent accusés de distribuer les bons et les mauvais points, de dresser des listes et bientôt d'être antisémites. Encore, oui encore, ils allèrent jusqu'à évoquer une guerre séfarade ashkénaz. Le titre fut accusé de réjouir en exposant nos dissensions internes, nos ennemis. Tout cela sur les réseaux sociaux, l'affaire étant devenue, comme ils disent, virale, d'autant que nous restâmes silencieux. Or, qui peut croire que ce que je vous conte fut fait, fabriqué en somme, pour créer un buzz quelconque? L'affaire est bien évidemment autre et bien plus éthique. Nous continuerons tous, Tribune Juive, ses auteurs, les soutiens qui nous arrivèrent par milliers, à fustiger ceux qui, se ralliant aux thèses les plus ignobles, accusent Israël des plus vils crimes, assassinat d'enfants, assassinat de journalistes, ceux qui l'accusent de famine, de génocide, ceux qui ne se limitent pas à déposer les morts de civils gazaouis, mais se permettent cette égalité obscène, faisant qu'on croira demain que c'est Israël qui initie cela le 7 octobre, et que peut-être Tsir Dibas c'était palestinien, allant bientôt prétendre qu'ils les ont vus, eux, les justes de Gaza, que pour ma part je cherche désespérément. Nous continuerons à refuser ce palestinisme obsessionnel qui fait oublier les faits. Et lorsque ce seront des juifs qui s'exprimeront, nous serons encore plus intransigeants, persuadés qu'en cette période inédite, il s'agit de se ranger tous, et indépendamment de nos idées politiques, de se ranger donc résolument aux côtés d'Israël. Et donc, même si ça fait mal à certains, aux côtés de son Premier ministre et de son gouvernement, en somme de remettre à plus tard les interrogations légitimes, les questions concernant ce 7 octobre et ce qui permet qu'il advienne, de remettre à plus tard nos divergences, d'attendre, est-ce trop demandé, une éclaircie, le retour de nos soldats, celui de nos otages, d'attendre avec un geste de décence que le pays vive enfin sans alarme, appelant jour et nuit incessamment les Israéliens à aller aux abris. Nous continuerons à contrer ceux-là qui prétextent que l'action du Premier ministre israélien ne serait qu'une manière d'échapper à ses procès, qui évoque son envie furieuse, l'envie furieuse qui serait sienne de s'accrocher au pouvoir. Un Premier ministre élu, rappelons-le, démocratiquement. La lumière sera faite demain concernant ses éventuelles responsabilités. Plus tard, car aujourd'hui, qui sinon lui? Qui en ce moment? Un Yair Lapid? Qui, dites-moi? Nous ne sommes pas heureusement les seuls sur cette ligne que nous revendiquons. Hier encore, Michel Zerbib de Radio J s'en prenait nommément à une qui, à son tour, brandit l'obscène accusation de génocide. Obscène et totalement infondée juridiquement, sauf à réécrire pour les besoins de la cause la définition de ce terme. Chers auditeurs, si demain, à Dieu ne plaise, ma France était en danger comme l'est aujourd'hui Israël, je me rangerai résolument, quoique j'en ai à son encontre, aux côtés du président français. Mais aujourd'hui, dimanche 7 septembre, lorsqu'une Fadila Maharoufi en vient à dire à ses amis juifs « Je crois que c'est fini, qu'il vous faut partir », ces paroles actant une défaite morale sonnent avec une gravité extrême qui nous oblige. Chers auditeurs, une amie mienne m'a rappelé ce conte assidique, enseignement d'une sagesse qui semble avoir quitté le monde juif. Dans un shtetl, me rapporta-t-elle, deux hommes s'invectivent violemment et s'accusent mutuellement de mensonges et malhonnêteté. Ils ne trouvent qu'un point d'accord, aller trouver le rabbin, un homme sage et juste, pour lui soumettre leurs arguments. Celui-là les reçoit l'un après l'autre, écoute attentivement le premier, lui pose des questions, et finit par un « Tu as raison, va en paix, ne souffre plus à cette querelle ». Il reçoit le second, l'écoute, le questionne, termine l'entretien par les mêmes mots. Depuis sa cuisine, sa femme écoutait tout. Sitôt le deuxième visiteur parti, elle se précipite et interroge son mari, « Mais comment? Ils ont des versions totalement opposées, alors à chacun tu as affirmé qu'il avait raison ?»« Mais toi aussi tu as raison », lui répond le rabbin d'une voix douce, l'œil rieur. Voilà ce qui nous fait sans doute défaut aujourd'hui, cette sagesse révolue. Chers auditeurs, je voudrais, avant de vous quitter, souhaiter un heureux anniversaire à notre ami Hassen Chaldoumi, le courage personnifié, mais aussi avoir une pensée forte pour Marianne Alter Weissmann, décédée le 21 août 2024, et à laquelle un hommage est rendu en cet instant même à Paris, autour du grand rabbin Moshe Lewin, qui la maria à notre ami Marek. Entends-tu, Marianne, la musique Klezmer ? Parle de Marianne, Sarah, m'a dit hier Marek. Elle t'écoutera.
Merci, merci, merci Sarah pour cet éditorial, ce premier éditorial de qualité. On rappelle, entre autres, sur le site de Tribune Juive, un édito de Julien Brun, Mostra de Venise, une indécente ovation, et un autre article, Réponse à une militante LFI, Émilie, par José Aynouz. Merci Sarah, à dans 15 jours pour un nouvel édito.
Oui, bien sûr. Au revoir.
Au revoir.